France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Déjeuner, dîner, déjeuner à nouveau, redîner, voilà en quoi consistent largement les fêtes de fin d'année pour celles et ceux qui ont la chance de les faire. Nous alimenter, nous nourrir, célébrer en nous sustentant. Toutefois, l'obsession pour ce que nous mangeons dure bien plus que la fin d'année. Nutri-Score, application pour être sûr que notre panier de courses est sain, multiplication des conseils sur les réseaux sociaux pour au choix avoir un ventre plat, réduire l'inflammation de son intestin ou même assurer un bien-être général. Nous sommes submergés par les informations nutritionnelles au point de se perdre dans une cacophonie diététique. Alors, d'où vient notre obsession pour ce que nous mangeons? Comment la nutrition est-elle devenue l'outil du culte de soi et de la minceur? Un invité, un historien même ce soir pour nous éclairer, Bruno Loriot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite à l'université de Tours et votre livre intitulé « Une histoire de la diététique d'Hippocrate au Nutri-Score » vient de paraître au CNRS édition. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée dans mon assiette.
Alors, avec Antoine, on s'est calé une organisation pour les repas et franchement, ça nous a changé la vie.
Ok, alors écoute bien les conseils que je vais te donner aujourd'hui et ne fais pas comme 99% des Français qui ont une alimentation inflammatoire.
Et du coup, je pense que je suis quand même bien placée pour vous donner mes conseils et surtout pour vous montrer comment je m'alimente au quotidien.
L'objectif, c'est de mieux manger, équilibré et sans frustration.
C'est tout simple, évite tous les aliments industriels.
Récemment, je t'ai demandé sur Instagram de me transmettre toutes tes questions. Nutrition, alimentation, tout. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses à se dire.
Petit florilège glané par notre réalisateur sur les réseaux sociaux, Bruno Loriot, est-ce qu'on est face ici à ce que vous appelez la cacophonie diététique, c'est-à-dire cette espèce de fatras dans l'information nutritionnelle?
Oui, c'est atypique de notre situation actuelle, mais en même temps, ça repose sur un intérêt qui est, lui, multiséculaire, millénaire, des êtres humains pour leur alimentation. C'est quelque chose qui pose difficulté parce que je me permets de commencer par quelque chose de très général. Au fond, l'alimentation, c'est une incorporation. C'est-à-dire, c'est le fait d'ingérer des aliments, les faire entrer dans notre propre corps. Donc, ça suscite obligatoirement des interrogations, des angoisses et des questions qui sont posées, au fond, à ceux qui savent. Ceux qui savent, traditionnellement, c'est des médecins. Mais aujourd'hui, si on écoute ce qui se dit sur les réseaux sociaux et autres, dans les médias, sur toutes sortes de supports, au fond, il y a beaucoup de gens qui ont quelque chose à dire sur cette alimentation, sur ce phénomène quotidien. Et donc, effectivement, on a des injonctions contradictoires, c'est comme ça que disent les sociologues, qui perturbent complètement, effectivement, l'approche qu'on peut avoir de son alimentation. Donc ça, c'est un phénomène, effectivement, je dirais, perceptible, nouveau. Par contre, l'intérêt qu'ont les gens pour leur alimentation, ça, c'est un phénomène très ancien.
Mais on peut se dire, après tout, Bruno Loriot, que votre approche est troublante. Ce pourrait être une bonne nouvelle, au fond, d'avoir accès à de l'information nutritionnelle. Est-ce que c'est pas un pas important du point de vue démocratique, là aussi, et de la diffusion de la connaissance?
Tout à fait. Mais sauf que c'est compliqué de pouvoir trancher, d'une certaine manière. Parce que on a diverses instances qui ont des autorités différentes, qu'on n'est pas soi-même en état de trancher. Quand on a deux articles qui disent le contraire l'un de l'autre, c'est rare, mais bon, ça peut arriver. Comment peut-on trancher entre son médecin et puis un diététicien qui intervient sur les réseaux sociaux, c'est très difficile. Comment peut-on trancher entre les magazines et puis les réseaux sociaux, entre voilà.
Et comment peut-on trancher dans le temps quand un jour on nous dit qu'il ne faut plus manger de pain qui contient telle céréale et que deux ans plus tard on nous dit exactement l'inverse, là aussi comment arbitrer ?
Oui, c'est ça, exactement. Bah parce que la connaissance scientifique, alors je dirais pas elle progresse, elle évolue. Hein, elle évolue, donc par conséquent, il y a des choses qui apparaissent, qui émergent. Il y a des aliments qu'on estimait, alors vous dites il y a 2 ans, mais on pourrait dire il y a 200 ans, voire il y a 2000 ans. Bon, il y a des aliments qu'on estimait tout à fait excellents, le sucre par exemple, qui se retrouvent dans la position du danger et du poison maximal. Donc effectivement, ça peut poser difficulté. Mais par contre, les questions que se posent les gens, c'est presque toujours les mêmes, d'une certaine manière.
Alors faisons de l'histoire, justement, puisque nous avons la chance de vous avoir dans ce studio, Bruno Loriot, et commençons par une définition. Définir la diététique, c'est une chose compliquée, car le terme plonge ses racines extrêmement loin dans l'histoire médicale.
Oui, bah dans l'Antiquité grecque, donc dès l'époque hippocratique. Donc le terme de diaita, c'est un terme qui est un terme qui, en fait, a une acception assez large. Ça veut dire, au fond, le fait d'arbitrer, d'une certaine manière, entre différentes possibilités, et de réguler. Alors, réguler quoi ? Bah, réguler son alimentation, et pas que. La diététique, c'est un ensemble de savoirs destinés à réguler le corps, en vue de le rendre en meilleure santé, soit pour combattre des maladies, soit pour garder cette bonne santé. Donc il y a l'alimentation, mais il y a aussi d'autres éléments. Il y a l'exercice, par exemple, qui est tout à fait fondamental. Ce concept un peu holistique va s'étendre considérablement au fil des millénaires. Et par exemple, au Moyen-Âge, on parlera de choses non naturelles. C'est un très mauvais terme, parce qu'évidemment, on se dit qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire que ça n'est pas le fonctionnement réel du corps, le fonctionnement fondamental du corps, c'est quelque chose qui s'ajoute, quelque chose qui vient le conditionner, le réguler, justement. Et puis le contre-nature, c'est évidemment les maladies. Donc, cette diététique un peu globale, elle est fondamentale dans la médecine. Et ça, c'est un point capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la diététique, c'est pas central dans la médecine. Aujourd'hui, même la nutrition, d'une certaine manière, j'ose ça. Je vais me faire peut-être prendre quelques orions, mais voilà, c'est pas central. C'est vraiment pas central. Mais à l'époque antique, c'est central.
Alors justement, vous avez employé un qualificatif, celui d'hippocratique. Je voudrais faire renaître Hippocrate à travers la voix de Juliette Moëlic, qui travaille dans l'équipe de Questions du Soir. Elle nous lit un extrait du Régime d'Hippocrate, le premier livre.
En l'homme pénètre une âme ayant une mixture de feu et d'eau qui est la part du corps humain. Tout cela, mâle et femelle, multiple et divers, se nourrit. Et c'est le régime dont l'homme use qui procure l'alimentation et la croissance. Il est nécessaire que ce qui entre ait toutes les parties. Autrement, pour cette partie qui manquerait, la portion primitive ne recevrait aucun accroissement, qu'il vînt beaucoup ou peu de nourriture, car elle n'aurait pas de quoi s'accroître. Mais, ayant tout, chaque partie s'augmente en son lieu, grâce à la nourriture d'une eau sèche et d'un feu humide, ceci étant poussé au-dedans et cela au-dehors. De même, les charpentiers sciant le bois, l'un tire, l'autre pousse, celui qui pousse en bas tire celui qui est en haut, sans quoi la scie ne marcherait pas. Et, si l'on y met de la force, tout est manqué. De même, dans l'alimentation de l'homme, cela tire, ceci pousse. Introduit de force au-dedans, il glisse au-dehors. Mais s'il y a violence inopportune, rien ne réussit.
« Quand on écoute Hippocrate, il y a quelque chose de quasiment consubstantiel, comme vous le disiez, entre ce que l'on ingère et l'état de santé du corps humain. Hippocrate qui, dans son régime, établit les propriétés médicales d'une quarantaine d'aliments ou de produits alimentaires.
C'est ça. C'est effectivement, c'est un texte assez compliqué. Il y a des parties, là, comme on vient d'entendre, qui sont des parties quasiment philosophiques. Et puis, il y a des parties qui sont beaucoup plus terre-à-terre et pratiques. La tendance va être à oublier les parties les plus globales et à se concentrer
sur les listes.
Mais en fait, originalement, l'ensemble est important. L'ensemble montre que l'alimentation est un enjeu global, en effet, et pas uniquement juste une correction ponctuelle.
Ce que vous expliquez par ailleurs, c'est que cet intérêt pour l'alimentation, pour la diététique, se diffuse bien au-delà du corps médical stricto sensu. Les personnes qui écrivent du théâtre, Aristophane, Euripide, vont également parler de diététique.
Oui, alors souvent pour s'en moquer en fait, hein, pour dire qu'est-ce que c'est que ces histoires, c'est très compliqué. Alors ils se moquent un petit peu des médecins, ils se moquent aussi des pythagoriciens par exemple, qui sont un courant philosophique qui parle beaucoup d'alimentation. Qui a beaucoup de prescriptions alimentaires, dire qu'il y a une diététique pythagoricienne, c'est pas sûr, mais enfin bon, voilà. Donc dans le monde grec, en effet dans les élites grecques, savoir ce qu'on mange, c'est très important, ça fait partie d'une culture, et ça va être le cas aussi dans les élites du monde romain, hein. Qui s'intéresse à la fois à ce qu'il mange et puis aussi, on le sait, à l'exercice, à tout ce qui est physique. Et il y a un lien entre les deux. Parce qu'au départ, quand on parle de diététique, on dit, voilà, c'est une manière de guérir les maladies. C'est le point de départ. Mais en réalité, ça va devenir aussi une manière de conserver la santé. Et là, du coup, ça prend une importance encore plus considérable.
C'est ce que j'allais dire, Bruno Leroux, en vous écoutant, on a le sentiment que tout était déjà en germe dans ces principes sous-jacents à la diététique propre à l'Antiquité. La médecine préventive, l'importance donnée à la prévention, même aujourd'hui, hein, qui embrasse l'ensemble des discours médicaux et institutionnels en santé. La santé environnementale, on a le sentiment là aussi que vous parlez déjà de santé environnementale lorsque vous parlez de diététique antique.
Oui, je fais le parallèle parce qu'effectivement, l'environnement, le lieu où l'on habite, alors c'est pas tellement la question de des polluants ou de choses comme ça, évidemment, qui sont pas tout à fait aussi importants qu'aujourd'hui, comme vous pouvez
imaginer. On parlait pas de PFAS, non ?
Non. Effectivement, avoir par exemple une maison sainement orientée, voilà, tenir compte des saisons, etc., c'est des choses tout à fait fondamentales parce que le nœud conceptuel, c'est une théorie qui veut que tout est constitué de qualité première, de chaleur et d'humidité, aussi bien le corps humain et les humeurs qui le traversent, que les éléments qui constituent l'univers et les aliments qui eux-mêmes sont nés dans cet univers et nous nourrissent.
Quand est-ce que, Bruno Leroux, quand est-ce que la diététique perd cette dimension holistique peu à peu? Quand est-ce que cette dimension-là s'effrite? Quand est-ce, au fond, que la diététique devient un peu plus scientifique, un peu plus rationnelle?
Oui, alors, je ne sais pas si elle devient rationnelle ou si elle est remplacée par un nouveau paradigme, je ne sais pas si on peut employer le terme, qui est la nutrition, qui n'a pas tout à fait les mêmes...
Quelle différence alors, diététique
alors,
et nutrition?
Pour moi, la diététique donc concerne effectivement la capacité d'améliorer la santé et de la conserver grâce à un ensemble où l'alimentation joue un rôle et un rôle de plus en plus important au fil des siècles, en fait. C'est là que le terme prend son sens qu'on lui donne aujourd'hui. La nutrition, c'est un terme qui existe déjà anciennement, mais qui d'un coup s'applique à une approche qui n'est plus fondamentalement individuelle mais collective et qui n'est plus qualitative mais quantitative. C'est ça qui constitue cette, la nutrition.
Et cette bascule, ce changement de paradigme,
ça se situe au 19e. Progressivement, on pourrait faire commencer les choses au milieu du 18e siècle, quand on commence à s'intéresser de plus en plus, à se réintéresser au phénomène central qu'est la digestion, parce que c'est la constitution du corps à travers ce qu'il ingère. Et là, on met en place progressivement, au 19e, le terme de nutriment, qui existait déjà, mais auquel on redonne un sens très fort, qui est les constituants de l'alimentation. C'est-à-dire que dans l'aliment lui-même, il y a des choses à l'intérieur, d'une certaine manière, je dis ça de manière un peu bébête, mais voilà, il y a des choses, et ces choses, c'est les nutriments, les lipides, les glucides, etc.
Et pour aller un cran plus loin, Bruno Loriot, le 19e siècle, c'est aussi une découverte fabuleuse, la calorie. Qu'est-ce que la calorie change là aussi? J'imagine que la calorie en tant que telle, c'est un paradigme tout à fait nouveau et entier pour la diététique comme pour la nutrition.
Oui, oui, tout à fait. C'est l'idée que on peut mesurer. On peut mesurer la quantité d'énergie, la calorie, comme son nom l'indique, ça mesure la chaleur, enfin l'énergie. On peut mesurer l'énergie produite par l'alimentation nécessaire à l'individu dans un cadre qui est un cadre collectif. Là où on va utiliser la calorie, c'est surtout dans les institutions collectives, c'est-à-dire la prison, c'est-à-dire la prison d'abord, et puis la caserne, l'école et l'usine, bien entendu. Donc la calorie, elle a un lien avec les transformations aussi globales du monde. Vous voyez, faire l'analyse de la diététique uniquement comme savoir scientifique, médical, c'est peut-être pas suffisant, il faut essayer de voir ça un peu globalement, d'une certaine manière.
Alors, continuons de voir ça globalement, grâce à vous, Bruno Loriot. Je remonte le fil, on se situe désormais au XXe siècle, et là, on observe la montée des maladies liées à l'alimentation. Je vous cite, vous écrivez, « En arrière-plan de la guerre contre le cholestérol, il y a l'inexorable montée en puissance des maladies cardiovasculaires et plus généralement des affections chroniques qui est non transmissible, qui l'emporte désormais sur les maladies infectieuses, lesquelles dominaient depuis des millénaires la pathologie occidentale. » Là aussi, on est dans une vraie bascule.
Oui, tout à fait. Alors, bon, là, je ne suis pas le premier à dire ça, hein, bien sûr, c'est bien connu, mais on peut voir exactement où la prise de conscience a lieu. La prise de conscience a lieu dans un pays qui va devenir un petit peu un pays moteur, justement, pour le développement de l'approche nutritionnelle, c'est les États-Unis. Et qui s'aperçoit qu'il y a une poussée des maladies cardiovasculaires, c'est les sociétés d'assurance, qui les premières signalent qu'il y a un problème. Et donc on va chercher à ces maladies cardiovasculaires des causes un peu générales, et des causes qu'on va trouver, ou qu'on va croire trouver peut-être, dans certains aliments ou dans certains groupes d'aliments ou dans certains nutriments d'une certaine manière. Donc les matières grasses, on peut dire les lipides hein, d'une certaine manière, puis après ça va être les matières sucrées, enfin tout ce qui est autour du sucre, c'est-à-dire les glucides. Hein. Et d'ailleurs il y a un débat aux États-Unis entre médecins eux-mêmes et on voit très bien comment les choses évoluent. Ça permet d'avoir une sorte de stratégie globale, simple, croit-on lisible. En fait, je ne suis pas sûr que les gens comprennent ce que sont les glucides et les lipides d'une certaine manière.
J'aimerais vous faire entendre une voix française importante, la figure de Jean Trémolière. Il était professeur à l'INSERM.
Le traitement par la diététique, c'est-à-dire par les régimes, prend de plus en plus d'importance à l'heure actuelle, à un moment où, grâce à tous les progrès de la médecine, il y a de moins en moins de maladies aiguës. On a de plus en plus de maladies dégénératives chroniques. L'artériosclérose, à l'heure actuelle, est la cause de 2/3 des décès dans les pays industriels modernes. Or, vous savez que dans la genèse de l'artériosclérose, on incrimine la pléthore alimentaire et la consommation de certaines graisses. Par conséquent, tout ceci demande des études et demande des thérapeutiques adéquates.
Alors, en somme, votre unité à l'hôpital Bichat est une unité expérimentale qui vous permettra de faire bénéficier et les bien portants et les malades de toutes les découvertes que vous ferez dans le domaine de l'alimentation.
Exactement, et vous voyez qu'évidemment, c'est une entreprise ambitieuse, mais c'est un prototype et je pense qu'elle pourra se développer assez rapidement et que d'autres centres de ce genre pourront se développer.
Expliquez-nous en quoi Jean Trémolière est une figure importante, Bruno Lorieux. Il sort de l'ombre de la clandestinité, le naturalisme.
Oui, alors, il est caractéristique de l'influence, au départ, de l'influence de la nutrition américaine. Hein. Il fait même partie d'un groupe, ça c'est très intéressant, d'un petit groupe qui a été envoyé en Crète, sur l'île de Crète, après la Seconde Guerre mondiale, pour observer ce que font les Crétois. Et ils s'aperçoivent que les Crétois mangent très peu de viande, ne consomment pas de lait. Donc théoriquement, aux yeux de la nutrition alors dominante, ils auraient dû être en pleine santé. Ils auraient dû mourir, excusez-moi, le contraire. Et en fait, ils sont en pleine santé, ils sont en pleine forme, ils vivent beaucoup plus vieux. Donc il y a un problème. Et Trémolière, qui est quelqu'un qui applique au fond cette nutrition au départ, va changer peu à peu d'optique. Si vous suivez après les interventions, il est beaucoup intervenu dans les médias, vous apercevrez qu'il dit à la fin, mais au fond, ça suffit de vouloir imposer aux gens des normes nutritionnelles trop serrées. Il faut penser à une chose, c'est qu'on ne mange pas des nutriments, on mange des aliments, et on mange même des aliments cuisinés, et en fait on les partage. Ce qui compte, c'est le partage des aliments dans un repas collectif.
Donc
c'est
la dimension socioculturelle est pratiquement aussi importante que ce que l'on ingère effectivement.
Oui, c'est l'idée centrale de Trémolière, qui malheureusement est mort assez prématurément, vers 78 je crois, et qui n'a pas pu d'une certaine manière avoir une influence qui, à mon avis, aurait été super utile.
Un point important, passionnant que vous développez dans vos travaux, Bruno Lorieux, c'est la façon dont on construit par ailleurs des ennemis alimentaires.
Oui.
Alors, j'ai appris par exemple que l'ennemi alimentaire en Grèce antique, c'était le melon. Alors, pour, oui. Expliquez-nous pour commencer, pourquoi le melon ?
Alors, surtout au Moyen-Âge, à vrai dire, hein, plutôt que dans
j'avais noté l'Antiquité, mais le Moyen-Âge.
Mais bon, ça revient au même, parce que le point de départ vient de l'Antiquité. C'est parce que le melon est considéré, vous savez, chaque aliment est un combiné de qualités premières, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le melon est froid et humide.
Et froideur, ça, c'est pas bien.
Bah, c'est mauvais pour la digestion, parce que la digestion, selon les concepts de Galien, donc là, c'est l'Antiquité, c'est une cuisson. Donc, tout ce qui s'oppose à la cuisson, qui la ralentit, la cuisson, ça réchauffe et ça assèche d'une certaine manière. Et donc, tout ce qui la ralentit est extrêmement dangereux. Donc, il faut consommer le melon vraiment avec des précautions énormes, c'est-à-dire vraiment tout début de repas, à jeun, et en ajoutant du vin et du sel. Parce que ça va permettre un petit peu de cuire, d'une certaine manière. Parce que le vin est humide et... est chaud et le sel, lui, assèche.
Le vin et le sel qui sont devenus, par ailleurs, aujourd'hui, deux ennemis alimentaires à eux tout seuls. Deux ennemis alimentaires...
Complètement.
Le sucre et le gras, là, ce sont les ennemis absolus. Alors...
Absolus, oui.
D'une manière synthétique, racontez-nous comment ils sont devenus ces ennemis que l'on connaît aujourd'hui. Le sucre et le gras. Le gras et le sucre.
Alors, le sucre, on va commencer par le sucre, si vous voulez bien. Le sucre est, au Moyen-Âge, c'est un médicament. C'est-à-dire, c'est l'idée que c'est excellent pour la santé, qu'il faut l'utiliser dans la nourriture des malades et notamment des convalescents. Il est modérément chaud et humide, donc il est parfait. Et puis, on va se rendre compte progressivement dès le XVIIe siècle qu'il y a des effets, par exemple, dans le fait de consommer beaucoup de sucre, parce que parallèlement, la consommation de sucre monte beaucoup plus tôt qu'on ne l'a dit. Et il va y avoir des caries alimentaires, par exemple, qui vont montrer que ce n'est pas si bien que ça. Puis après, on va faire le lien avec, par exemple, le diabète, qu'on connaissait, mais qu'on n'avait pas identifié comme étant lié à un excès de sucre dans le sang, notamment. C'est une chose qui va être faite au 19e siècle. Et là, du coup, le sucre va devenir l'ennemi numéro un à proscrire. Oui.
Ennemi numéro 2, le gras, en quelques mots.
Oui, alors le gras, c'est quelque chose de plus, peut-être de plus compliqué, je dirais. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment lié à la nutrition américaine des années au début du 20e siècle. Plutôt ça, c'est là où on va stigmatiser en effet le gras, et ça va être très discuté d'une certaine manière par les nutritionnistes qui vont trouver dans le sucre un candidat beaucoup plus simple à traiter, on va dire.
Une histoire de la diététique d'Hippocrate au Nutri-Score que vous nous avez résumé avec brio d'une manière synthétique en 25 minutes. Merci Bruno Loriou. Vous êtes publié au CNRS Éditions. Merci d'être venu à Question du Soir ce soir. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Rodi Eken, Inès Bouffartig, Sébastien, François Richer à la réalisation.